Bah, bienvenue. Tout ce qui est rare et précieux. Donc vous allez fermer les yeux, deux secondes s'il vous plaît. Voilà, vous allez inspirer profondément et vous allez me dire ce que vous sentez. J'espère, même si on a aéré, que vous ne sentez plus forcément dans les bibliothèques. Oui, l'odeur du livre. D'accord. Bon, maintenant vous regardez s'il vous plaît autour de vous et vous me dites ce qui vous surprend peut-être, ce qui vous a surpris en arrivant ici, qu'on ne voit plus non plus dans les bibliothèques contemporaines. Allez-y, monsieur.
Les vieilles éditions.
Des vieilles éditions, et puis, est-ce que vous voyez des livres aussi serrés dans les bibliothèques contemporaines? Non, hein, on a tout à fait changé la disposition. Là, vous voyez que c'est le plus serré possible parce qu'on en a 20 000 et on a un tout petit espace, d'accord? Alors, on va prendre la machine à remonter le temps. Vous allez vous imaginer 150 ans en arrière. Est-ce que vous savez en quoi consistait ce quartier il y a 150 ans? On n'est pas loin de quoi? Quand vous êtes arrivé ici, oui, le Marais. Et puis, il y a une grande place, vous dites quelque chose?
La place des Vosges.
Oui, la place des Vosges. Et puis, il y a une autre place aussi.
La Bastille.
La Bastille, oui, tout à fait. Donc, en fait, on est dans un quartier ouvrier, qui auparavant a été aussi le quartier de l'aristocratie. Vous êtes dans l'hôtel de Gourgues, ce n'est pas rien. Vous avez peut-être remarqué en entrant, hein, les deux corps de bâtiments. Donc, vous êtes dans un bâtiment très ancien, je vais vous expliquer pourquoi. Et qui ensuite, cette aristocratie se retire et nous avons un quartier qui devient artisan, avec toute une variété d'ouvriers, de petits ouvriers, mais aussi d'employés qui vivent là. Et on va donc remonter dans les années 1860. Dans les années 1860, le livre est rare, il est cher. Et les ouvriers partout savent lire généralement, mais ils voudraient avoir des livres à disposition. Or, ils ne peuvent pas, parce qu'un livre, pour leur budget, c'est beaucoup trop. Donc, vers quel endroit pourraient-ils se tourner logiquement pour pouvoir lire? Ce serait vers des bibliothèques. Sauf que, à l'époque, les bibliothèques, vous avez la bibliothèque impériale, en 1860, ancêtre de la Bibliothèque nationale. Vous avez quelques grandes bibliothèques privées. Vous avez également une bibliothèque municipale, mais ces bibliothèques ne prêtent pas de livres, et surtout pas aux ouvriers. À la limite, elles pourraient prêter évidemment aux gens qui ont des relations sociales, mais certainement pas aux ouvriers. D'autre part, il y a un autre problème tout bête qui se pose à un ouvrier, un artisan, etc. C'est qu'il n'a pas les horaires qu'on a aujourd'hui et que par conséquent, il n'a pas le temps tout simplement d'aller à une bibliothèque. Et en plus, ces ouvriers ont vu toute une rafale de révolutions que vous connaissez. Il y a eu 1789, il y a eu 1830, il y a eu 1848, dans lequel ce quartier a été très actif. C'est pour ça que je vous rappelais la présence de la place de la Bastille, pas loin. Et ils ont eu l'impression, principalement en 1848, qu'ils n'avaient pas ce qu'ils avaient désiré en faisant la Révolution, et que s'ils ne l'obtenaient pas, c'est parce qu'il leur manquait les connaissances et surtout l'éloquence, donc la culture. Donc ils veulent absolument avoir accès à quelque chose qui, d'après eux, se trouve dans les livres aussi, et qu'on ne leur a pas donné. Des livres d'histoire, et des livres de ce qu'on appelle à l'époque l'économie politique, c'est-à-dire la grande réflexion sur la politique. Donc l'idée, ça va être de se dire, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, puisque les livres sont chers, puisqu'on ne nous les prête pas, fondons des associations où on se cotiserait pour acheter des livres. Et on se les prêterait les uns les autres, par mutualisation. La mutualisation, à l'époque, c'est très important, justement, dans les milieux ouvriers. Alors, il y a plein de gens qui vont s'intéresser à ça. Il y a d'une part ces gens extrêmement modestes qui vont dire « nous, on veut lire ». Et puis, vous avez une autre partie de la population, qui est la partie qu'on pourrait appeler la partie philanthrope, qui se dit « ça, c'est très bien aussi, parce que la lecture, il faut qu'on la surveille ». Le livre est en train de devenir de plus en plus important, de plus en plus répandu. Vous avez sans doute entendu parler du colportage, etc. Ce serait bien de surveiller les lectures de ces personnes, puisque inévitablement, de toute façon, ils vont lire, autant qu'on surveille leur lecture et autant qu'on sache ce qui se passe. Et il y a aussi un intérêt derrière ça, c'est que les patrons se disent, un ouvrier éduqué est quelqu'un qui va savoir lire, par exemple, le mode d'emploi d'une machine. Et on est dans une industrialisation croissante, où il serait très intéressant que ces ouvriers sachent se débrouiller. Donc on va trouver à l'origine de cette bibliothèque les deux extrêmes. Les ouvriers dont je vous parlais, ouvriers artisans, et l'autre extrême, des philanthropes, autour de la sphère de Napoléon III. Et ça, c'est très important. Parce que les ouvriers qui ont tenté à cette époque-là de fonder des bibliothèques tout seuls se sont retrouvés en prison. Interdiction de fonder une association tout seul, et surtout une association possiblement séditieuse puisqu'on y lirait. Donc, on a à l'origine de cette bibliothèque un personnage que vous voyez ici, qui s'appelle Jean-Baptiste Girard, qui est un ouvrier venu de la campagne. La légende prétendait qu'il était analphabète, il n'en est rien évidemment, il avait quand même appris à lire. Et Jean-Baptiste Girard a été arrêté, a eu des gros soucis politiques en 1850 parce qu'il a désiré fonder une association d'associations. Il a été en prison, en particulier à Sainte-Pélagie, et on prétend qu'à Sainte-Pélagie, il aurait eu à disposition des livres et qu'il se serait dit après tout, pourquoi est-ce que je ne fonderais pas plus tard une bibliothèque? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été arrêté en compagnie de femmes, et en particulier une femme très célèbre pour la cause féministe qui s'appelle Jeanne de Roy. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Jeanne de Roy, Deroyenne. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, il y a ce personnage, avec d'autres personnages, d'autres ouvriers intéressés à la même cause que lui. Et ils vont obtenir des appuis de gens très importants dans l'entourage de Napoléon III. Napoléon III se rend donc compte que la culture est importante, il y a des expositions universelles qui sont en train de se mettre en place, etc. Napoléon III veut que la France ait une certaine image par rapport à l'Angleterre. Donc Napoléon III va encourager des personnes à s'occuper de cette bibliothèque, va donner son feu vert, donc il va y avoir une autorisation en préfecture pour que cette bibliothèque soit fondée. Donc c'est la double origine de cette bibliothèque, avec un double jeu de la part des uns et des autres. Les ouvriers font semblant de se plier évidemment à cet entourage impérial, et les gens qui sont autour de l'empereur et qui s'occupent de cette bibliothèque, évidemment, font semblant aussi d'avoir une sympathie pour les ouvriers. Mais c'est pas grave parce qu'au moins, du coup, cette première bibliothèque se fonde. Et elle se fonde avec donc un système associatif qui est très important. Pour la première fois dans l'histoire des bibliothèques en France, on peut emprunter ce que l'on veut, parce qu'il y avait déjà des bibliothèques, mais des bibliothèques paroissiales, etc. Et on peut demander aussi des achats de livres. Alors c'est surveillé quand même par le pouvoir, mais on peut demander. Vous voyez que c'est extraordinaire, parce que ça, on a longtemps dit, bon, c'est des idées du XXe siècle, etc. Pas du tout, ça existe déjà dès les années 1860.
Et justement, qui est-ce qui va décider du choix des livres?
Justement, alors c'est le conseil. Alors il y a toute une structure associative que je ne peux pas vous raconter parce que je ne vais pas pouvoir vous garder longtemps. Je vous incite à lire le livre que nous avons sorti l'an dernier, hein, si vous voulez en savoir plus. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de savoir que c'est possible. Ça se met en place. Et ensuite, ils vont également accepter les femmes. Et ça, ce n'est pas rien. Ils vont accepter qu'elles cotisent à moitié prix. Alors pourquoi? Non pas qu'ils considèrent qu'elles sont la moitié des hommes, mais parce que, c'est très important, les femmes gagnent beaucoup moins à l'époque. Et les femmes à Paris sont très marginalisées, vous allez avoir une superbe exposition à Orsay sur la prostitution. Il faut savoir que les femmes à l'époque, seules à Paris, connaissent beaucoup de vicissitudes et beaucoup de difficultés. Donc aider les femmes seules à lire, là aussi c'est quelque chose de très important. Donc on va avoir ce public féminin, masculin, qui va avoir le droit de lire. Et la philosophie de l'association, en plus, c'est un, de donner des livres pour l'instruction. C'est très important, c'est pour leur permettre de progresser. Donc c'est dit en toutes lettres dans les statuts, des livres pour l'instruction, arithmétique, etc. Tout ce qui va leur permettre de développer leur instruction. Des livres d'économie politique, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, même si c'est surveillé par le pouvoir, mais parfois il y a des stratégies pour dissimuler des livres sous des couvertures, etc. Donc on peut là aussi un petit peu tricher. Et puis des livres, c'est dit aussi de délassement. Et ça, c'est une notion très importante parce qu'à l'époque, vous le savez sans doute, l'Église n'aimait pas les lectures de délassement. Or ici, la lecture du roman est permise, y compris, vous pourrez voir en bas, des gens comme Paul de Kock, etc. Donc des lectures un petit peu légères. Ou très tôt, Zola aussi se trouve en bibliothèque populaire. Alors que dans les autres bibliothèques municipales, on va être beaucoup plus réticents par rapport à la lecture de Zola. Et les femmes, donc, comme je vous le disais, les jeunes filles, etc., peuvent emprunter. Alors, cette bibliothèque va essaimer très rapidement parce que, évidemment, on en parle dans Paris et peu à peu, on va créer d'autres bibliothèques des années d'instruction à Paris, en banlieue. Et elles vont servir de modèle à des bibliothèques populaires dans toute la France. Au point que, au tournant du 19e siècle, il y avait en France plus de 10 000 bibliothèques populaires. Or, aujourd'hui, la bibliothèque des amis d'instruction du 3e arrondissement, telle que vous la voyez, est la dernière. Il n'y en a pas d'autres qui subsistent. On a parfois les collections, mais on n'a aucun endroit où on est à la fois le lieu, comme vous voyez ici, et la collection. Alors pourquoi? Ben parce qu'elle a eu beaucoup de chance. C'est des questions de chance. Hein. Parce qu'elle était centrale aussi dans cet arrondissement. Parce qu'elle se trouve dans un arrondissement qui mute. Hein. Je vous ai dit, alors l'aristocratie, ensuite les artisans, aujourd'hui une marée, vous voyez. Et qu'au fil au mesure, au fur et à mesure, elle s'adapte à la sociologie finalement des gens. Et c'est comme ça qu'elle a toujours été sauvée par des gens du quartier pour différentes raisons jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous avez la chance de la visiter. Et elle est toujours associative. Alors là, évidemment, je vous explique. Hein. Aujourd'hui, vous voyez ici une bénévole, une autre bénévole, etc. Vous en avez vu en bas. Donc nous continuons à essayer de garder d'une part le fonds qui a été gelé. Vous imaginez bien qu'on ne peut plus prêter aujourd'hui. Hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que nous sommes aussi finalement une sorte de musée de la pratique de la lecture. Puisque quand vous regardez, vous voyez aussi que dans les bibliothèques, vous ne verrez pas d'ouvrages dont les coiffes sont arrachées comme ça, dont les pages sont cornées, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on peut voir au moins quel livre était préféré par les lecteurs. On voit aussi, vous le verrez en bas, en passant, quand vous regarderez les Zola, que cette bibliothèque, n'hésitez pas à acheter, contrairement aux bibliothèques municipales, autant de fois qu'il était nécessaire un ouvrage, s'il plaisait aux lecteurs. Donc on a quatre cocus du pôle de Paul de Kock, ça on l'aura nulle part ailleurs. C'est pas grave, il n'y a pas eu de jugement porté, c'était demandé, c'était acheté. À l'époque, les cabinets de lecture faisaient la même chose, mais parce que c'était payant hein, d'acheter autant. Tandis que là, c'était gratuit, sauf cette petite cotisation qui était symbolique aussi pour faire plaisir aux gens, pour leur dire, vous voyez, vous n'êtes pas rien, vous avez le droit hein, de lire comme tout le monde. Donc ça avait été discuté aussi, est-ce que ça devait être gratuit, est-ce que ça devait être payant. Le choix avait été fait que ce soit payant, parce que sinon, ils trouvaient que c'était humiliant hein, d'avoir à disposition une culture gratuite, et ils se disaient, si c'est gratuit, c'est qu'on nous cache encore des choses. Tandis que là, on va essayer d'acheter ce qui nous plaît. Donc voilà comment elle est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Elle avait aussi une deuxième fonction qui était rapidement de faire des conférences pour ces gens. Parce que là aussi, ils n'avaient pas la chance d'aller à l'université. Donc il y a des soirées, des conférences qui ont été données, parfois avec des milliers de gens. Et la préfecture de police qui venait surveiller ça était extrêmement surprise de constater que ce n'était pas pour écouter forcément des propos séditieux, mais bien pour travailler, que les ouvriers prenaient des notes, etc. Donc on a comme ça des rapports de police qui sont extraordinaires sur les pratiques des gens qui viennent écouter des conférences et qui s'intéressent à ce qu'ils entendent.
Oui, ici c'est possible.
Alors ici ce n'est pas possible, bien entendu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec tout ce réseau de relations dont je vous parlais, ça se passe à la Sorbonne, ça se passe dans les mairies, tous les grands lieux, tous les grands amphithéâtres mettent à disposition des gens aux arts et métiers, etc., des amphithéâtres pour qu'on ait des centaines ou des milliers de personnes. Par exemple, Gambetta soutient les bibliothèques populaires et Gambetta va faire des conférences, alors un peu politisées évidemment, lui quand même, devant tout le monde. Et nous avons gardé aussi cette tradition des conférences de lecture. Donc elles sont affichées en bas, vous le verrez. Et si vous allez sur notre site, vous verrez également ce fameux programme. Alors évidemment, on ne peut pas accueillir 100 personnes non plus hein, dans le lieu. Mais nous avons tous les mois des soirées de lecture. Cette année, ça sera autour de Paris au 19e siècle. Donc nous faisons venir des spécialistes qui parlent hein, de tel ou tel thème, en rapport évidemment avec l'histoire de la bibliothèque. Alors je vais vous montrer rapidement quelques ouvrages, et puis après, comme ça, vous pourrez poser des questions. Donc, des ouvrages qui sont emblématiques, évidemment, de ces demandes des ouvriers, hein, c'est-à-dire qui ont eu envie de disposer de certains ouvrages. Alors, on va commencer par la demande qui n'a pas eu de succès pendant très longtemps. Voilà, c'est la demande de livres instructifs. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, une demande à avoir à disposition des livres d'arithmétique, de physique, etc. Celui-ci est intéressant. Il date de 1852, et vous voyez ici, cours d'arithmétique à l'usage des élèves. Donc ça veut dire que ça a été utilisé par les ouvriers qui suivaient des cours à l'association philotechnique ou polytechnique, hein, qui sont aussi à l'origine de ces bibliothèques, hein, puisque les professeurs ont largement soutenu la bibliothèque des années d'instruction. Donc ils pouvaient demander ces ouvrages-là et venir travailler ici. Alors je ne vous ai pas parlé des horaires d'ouverture. Bien entendu, le soir, après le travail. Et là aussi, les journaux sont sidérés, la presse en parle, mais ils viennent, et ils lisent, et ils travaillent. Comment se fait-il hein, que des ouvriers aient cette volonté de réussir? Puis alors, devinez quel est le jour où ils viennent?
Le dimanche,
et non, justement, pendant la messe, pire encore. Voilà, horaire d'ouverture pendant la messe, et voilà, ça marche bien. Donc les gens viennent lire ou viennent emprunter les livres, donc ils ont le droit. Ça dépend des bibliothèques populaires. Ici, ils ont la place pour travailler. Dans le Jura, où c'était trois étagères avec des planches de pain, ils repartaient chez eux, évidemment, à lire. Donc ça, c'est la première possibilité. La seconde, c'est l'économie politique dont je vous parlais, hein, donc ils viennent chercher des livres. Alors là, ça a été un petit peu difficile avec le pouvoir. Ça a été surveillé parce que des gens comme Proudhon, on n'avait pas trop envie qu'ils puissent les lire, hein, c'est sûr. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il y a eu des stratégies de dissimulation des ouvrages. Alors j'aime bien celui-là, hein. Si on l'ouvre, on voit ici par exemple une lecture séditieuse. Sujet du chapitre, est-il indispensable de subordonner les associés qui collaborent à l'un d'entre eux ? Est-il juste de récompenser l'un plus que les autres ? Etc, etc. Vous voyez le genre de lecture qu'on pouvait avoir. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de mettre des livres à disposition de toutes les catégories. Je vous ai dit ouvriers, artisans, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Paris est une ville encore rurale, qu'il y a des fermes dans Paris, et que les communes environnantes, comme Montreuil, Saint-Ouen, etc., sont des communes rurales. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, ces gens sont en recherche de lecture. En particulier, on sait que les agriculteurs, ceux qui avaient suivi des études à l'école, eh bien, étaient désireux d'avoir des ouvrages, que ce ne soit pas réservé qu'aux grands propriétaires et qu'eux-mêmes puissent avoir ces ouvrages en main. Donc ici, bah, vous avez tout simplement un ouvrage d'agriculture, vous voyez ici, avec un système de charrue très compliqué. Donc c'est mis à disposition des lecteurs. La Bibliothèque populaire de Montreuil est extraordinaire, on a encore le fond. Et là, vous avez tous les ouvrages, puisque Montreuil était une ville spécialisée dans les arbres fruitiers. Vous avez tous les ouvrages sur la taille fruitière, etc. Donc on adapte en plus en fonction du lieu où l'on est. Des ouvrages de vulgarisation, ça c'est très important, et des ouvrages chers on peut acheter, en se mettant à plusieurs. Et en particulier, tous ces magazines de vulgarisation, vous connaissez, vous avez au moins entendu parler de l'illustration, hein, bon, magasin pittoresque, etc. Donc là, c'est le magasin pittoresque. Ça fait partie d'un grand classique dans les bibliothèques populaires. On se cotise pour l'acheter. Alors ça dépend, il y a des bibliothèques qui le prêtent, d'autres non, parce que c'est quand même précieux. Et vous savez que ce genre d'ouvrage est illustré. Ça, c'est formidable pour les gens qui ne voyagent pas et qui n'ont pas encore beaucoup d'images. Ils ne sont pas saturés comme nous. Donc là, par exemple, sur les aérostats, mais ça peut être des récits de voyage, ça peut être des sujets sur Paris, pour ceux qui ne vont pas à l'exposition universelle, etc. On va leur expliquer, avec images à l'appui, ce qui se passe. Donc ça, c'est formidable. Le magasin pittoresque est développé par un personnage extraordinaire qui s'appelle Édouard Charton, qui sait mettre la vulgarisation à portée de tous. Et Édouard Charton a justement fondé la première bibliothèque populaire de Versailles, à la même époque. Donc vous voyez, on retrouve toujours les mêmes personnages. Un autre grand vulgarisateur, c'est Louis Figuier. Lui aussi, il fait des publications scientifiques, alors plutôt scientifiques, sur les insectes, etc. Là, je vous en ai sorti un qui est assez amusant, puisque c'est sur les hommes préhistoriques, et c'est la vision de la préhistoire de l'époque, c'est-à-dire qu'à partir de quelques outils, on reconstitue, soi-disant, les combats, vous voyez, entre hommes préhistoriques. Donc c'est assez rigolo aussi de voir comment se fait cette vulgarisation au XIXe siècle, hein, mais toujours avec de très très belles gravures, puisqu'à l'époque, on a énormément de dessinateurs, de graveurs, etc. Et enfin, clou du spectacle, nous avons quelques archives, alors pas tout malheureusement, mais il nous reste au moins quelques registres d'inscription. Et ici, vous viendrez voir tout à l'heure, vous tournerez, vous verrez que nous avons Rodin, Auguste, sculpteur. Alors évidemment, on a suivi le fil, on a essayé de comprendre comment il était venu jusqu'ici. Eh bien, il est tout jeune à l'époque, et c'est au début de la Bibliothèque des Amis d'Instruction. Il suit les cours de l'association philotechnique, parce qu'il a besoin de rudiments, en particulier dans tout ce qui est art plastique, etc., mais aussi science. Et donc, à l'association philotechnique, on lui parle de la bibliothèque, il vient avec des amis, et il va pendant quelques mois, au moins, hein, on ne le voit pas les années suivantes, mais quelques mois au moins, fréquenter la bibliothèque. Donc ça, c'est un de nos plaisirs. Mais ce qui est intéressant aussi, quand on regarde toute cette liste d'inscriptions, c'est qu'on voit la sociologie du quartier. Si vous voulez, vous irez sur notre site, on a fait tout ce qu'il faut, on a reconstitué les différentes sociologies, les provenances, etc. On voit que les gens viennent d'un peu partout. Donc ici, par exemple, un graveur, un papetier, un employé, un étudiant, un employé, un papetier, un bijoutier, un imprimeur. Vous voyez les métiers vraiment du... Un monteur en bronze, il y en avait beaucoup ici, des monteurs en bronze. Un chimiste, un cultivateur, comme je vous disais tout à l'heure, qui vient de Saint-Ouen. Et une dame. Une dame qui s'appelle Madame Bellamy, concierge rue des Gravilliers. Et là, ça aussi, c'est excellent, parce que nous connaissons Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy est à l'origine de la bibliothèque, c'est un ami de Girard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce sont les futurs fondateurs de l'Association internationale du travail, donc des militants socialistes, tout ça grouille dans la rue des Gravilliers. Mais ce qui est intéressant, c'est le geste fort, c'est-à-dire que souvent, seul l'homme s'inscrivait dans la bibliothèque, prenait des livres pour sa femme, et là, geste fondateur, sa femme a le droit de venir. Et Girard a fait la même chose, sa fille s'est inscrite par exemple. On retrouve ça dans les bibliothèques populaires. Et on revient à Jeanne de Rouen dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dire symboliquement Les femmes, non seulement ont droit à la lecture, elles ont droit à une vie autonome. Elles peuvent s'inscrire, elles peuvent faire partie des bibliothèques. Alors après, elles ne sont pas très présentes dans les bibliothèques, malheureusement. On ne les voit pas, on n'en trouve pas la trace. Mais on sait au moins qu'elles viennent lire. Et vous regarderez d'ailleurs, j'ai photocopié une gravure d'un magazine qui s'appelle Le Monde Illustré, c'est en bas. Et vous verrez que les représentations des bibliothèques populaires, on voit bien les hommes, les femmes, les enfants. Parce que le rôle de la maman, c'est de lire, mais surtout pour transmettre, pour surveiller les leçons, etc. Et on dit toujours, et c'est la philosophie des bibliothèques populaires, on dit toujours que quelqu'un qui vient lire, pendant ce temps, n'est pas au café. Et c'était le grand rêve de ces philanthropes, c'est-à-dire que l'ouvrier épargne, et une fois qu'il aurait rempli son livret d'épargne, il irait le matin à la caisse d'épargne, il irait l'après-midi ou l'heure d'après à la bibliothèque aller chercher des livres, et donc son argent serait mis à la caisse d'épargne, il lirait, il serait tempérant, et donc ses enfants, tout le monde progresserait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Bah oui, justement, est-ce qu'on sait ceux qui lisaient ? Parce que par exemple, pour les femmes, qu'est-ce que...
Alors c'est une excellente question. On a fait plein de recherches là-dessus. Alors malheureusement, on n'a pas trace forcément des emprunts ici.
Ah oui, non, c'est pas, c'est
il y a d'autres bibliothèques où on a trace des emprunts. Et quand on a trace de ces emprunts, c'est dans l'ouvrage aussi, hein, c'est assez intéressant. On se rend compte que effectivement, alors il y a eu une grosse déception qui est qu'ils sont allés vers le délassement beaucoup plus que l'instruction. Mais les fondateurs, ils y croyaient à l'époque. Oui. Donc ils ont dit, oh zut quand même, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est pour ça que certaines bibliothèques ont mis en place le système, tu empruntes un livre éducatif, je te donne un livre de distraction. Bon, ça c'est... Voilà. Et après, on se rend compte qu'il y a des emprunts quand un ouvrage s'avance. C'est ça qui est étonnant, sans pression visiblement. Et qu'ils ont envie de lire ces livres. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils les aient lus, hein. Les emprunts aussi, ça, c'est un peu ce qui nous gêne, mais on sait au moins qu'ils les ont empruntés, y compris les femmes, hein, et des ouvrages savants. Donc, l'étude a été menée non pas dans une bibliothèque populaire, mais dans les bibliothèques des châteaux impériaux, et on voit bien que les domestiques femmes empruntent des ouvrages savants.
Ah, les domestiques.
Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant, mais bon, emprunt, je vous le dis, ne dit pas lecture.
Oui, bon, voilà. Si on l'emprunte.
Et alors, dernière chose, elle est très intéressante, votre question, pour dédramatiser la bibliothèque, qui a lieu impressionnant, hein, eh bien, on avait droit à un petit livret sur lequel étaient inscrits les emprunts, et on avait droit à un catalogue, parce que la philosophie était la suivante, comme ça, ça empêche la personne d'avoir peur, quand elle arrive devant le bibliothécaire, et de se dire, oh mon Dieu, je vais dire des bêtises, etc. Donc le catalogue permettait à la personne de regarder tranquillement chez elle, et de revenir ensuite en disant, je désirerais tel ouvrage. Donc ça faisait partie de ce qu'on avait quand on s'inscrivait. On avait droit à un livret de sociétaire et on avait droit à un catalogue.
Bon, je sais pour les enfants, vous avez la partie...
Ah, alors, excellente question. En fait, je vous explique. Tout est parti de l'idée de mettre une bibliothèque dans toutes les écoles de l'Empire. Bibliothèque scolaire, circulaire roulant, en 1858. Et c'est ce qui a permis, finalement, aussi de s'engouffrer dans cette brèche et de dire, si on met une bibliothèque scolaire à disposition des enfants ou des jeunes adultes, hein, une fois qu'ils sortent de l'école, pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à des bibliothèques ? Donc il y avait déjà des bibliothèques scolaires, qui sont très surveillées évidemment, vous imaginez bien, hein, c'est le ministère des cultes, comme ça s'appelle à l'époque, et de l'éducation, qui donne les lectures, normalement, qui vont être proposées. Après, certaines bibliothèques populaires ont essayé de mettre en place des petits rayons lecture, mais ce n'était pas dit vraiment. Ce n'était pas, voilà, c'était pas le centre d'intérêt à l'époque, parce qu'il y avait déjà ces fameuses bibliothèques scolaires. Ceci dit, ici, on sait qu'il y avait, alors ils ont disparu, mais il y avait des Hetzel, etc. Donc il y a bien eu une préoccupation quand même pour les enfants.
Et jusqu'à quand à peu près elle a fonctionné ?
Elle a fonctionné, elle a prêté jusque dans les années 1980.
D'accord.
Voilà. Et c'est à cette époque-là qu'on s'est rendu compte, enfin, ce sont les personnes qui étaient en place à l'époque, hein, qui se sont rendu compte que les livres empruntés ne revenaient pas forcément, qu'il fallait quand même en faire peut-être une bibliothèque patrimoniale, c'est le choix qui a été fait, pour garder la mémoire de l'endroit, et qui du coup ont gelé le fond dans les années 1940, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit désherbage qui a été fait, de manière à bien conserver la partie 1860-1940, mais tout en relevant bien entendu ce qui a été désherbé pour les historiens de demain. Donc maintenant, il n'y a plus de prêt.
Consulter sur place.
C'est... Il faut consulter sur place, tout à fait.
Marx, vous avez...
Marx, oui, bien sûr. Alors,
très tôt.
Je ne saurais plus vous dire, mais je sais qu'on a, attendez, le leader indochinois qui est venu lire Marx dans la bibliothèque populaire du 13e arrondissement. On a cette trace parce qu'il a été suivi par la préfecture de police. Mais je vous dis, après, c'est très difficile à repérer. Par exemple, j'ai repéré des glissements d'un catalogue à l'autre. Après le Second Empire, par exemple, sous la même cote, je retrouve un livre différent. Vous voyez, par exemple, pendant le Second Empire, c'était l'économie politique par Napoléon III, et après, c'est par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a juste changé la couverture, mais qu'en réalité, on avait déjà. Bien, alors je vais d'abord vous dire que nous sommes une association, donc nous fonctionnons bénévolement, tout le monde est accueilli. Vous pouvez revenir le samedi en période scolaire de 15 à 18 heures. Lire, écouter, poser d'autres questions si vous en avez d'autres à poser. Nous avons en vente donc l'ouvrage du colloque de l'an dernier avec certains auteurs qui sont ici aujourd'hui qui peuvent vous dédicacer.
Dont Agnès, je précise.
Vous avez un certain nombre de petits objets aussi. Voilà, il y a des cotisations pour ceux qui le souhaitent. Et puis surtout, je vous incite à aller voir, on a invité une relieuse, donc par conséquent, qui peut montrer aussi des démonstrations de relure, sachant que parmi nos activités aujourd'hui, nous avons encore l'entretien des livres. Donc nous avons également un atelier relure. Si vous voulez devenir bénévole, vous en parlez aux personnes qui sont en bas. Nous sommes en manque cruel de bénévoles, donc nous les accueillons avec plaisir. Voilà. Ben, je vous remercie.
Et ça permet, j'ajoute, le savoir-faire permet aussi de relier, de prendre soin de vos livres personnels, parce qu'on apprend des choses, les rudiments de la reliure, donc ça peut faire double usage, à la fois pour conserver ce fond, mais à titre personnel, c'est aussi très intéressant.